Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du thérapeute familial Jesper Juhl. Catherine Thiaden a découvert ses écrits à la naissance de ses enfants et a depuis œuvré plus largement pour faire connaître son approche éducative, basée entre autres sur l'estime de soi, l'authenticité, l'intégrité, etc. Nous avons parlé d'équidignité, de l'art de dire non, et surtout de cet art de vivre à cultiver sur le long terme. Si vous non plus vous ne connaissez pas Jesper Juhl, je vous invite à vous procurer son ouvrage « Regarde ton enfant est compétent » pour découvrir les enseignements si passionnants de ce Danois, souvent méconnu du grand public. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'expert danois de l'éducation, Jesper Juhl. Alors pour ma part, je ne le connaissais pas et pourtant il a écrit de nombreux best-sellers comme « Regarde ton enfant est compétent ». Et pour revenir rapidement sur son parcours, il est mort en 2019 et a contribué largement au domaine de l'éducation, thérapeute familial, conférencier, fondateur du laboratoire des familles, etc. Et vous allez nous en parler puisque nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler de ça. Et lui, son objectif, c'était d'offrir de nouvelles pratiques aux parents pour réussir leur vie de famille. Donc forcément, on adore. Alors ma toute première question qui me vient forcément, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes particulièrement intéressé à Jesper Juhl.
Oui, donc merci déjà aussi de m'inviter et de parler de lui. C'est toujours un grand plaisir de vraiment mettre un peu de lumière sur cet homme et puis ses écrits et ses actions. Quand on regarde un petit peu mon parcours, ça a toujours été marqué par une grande curiosité pour l'humain et pour les relations humaines. À l'école, j'aimais les langues et la philo. Après, je voulais faire un peu de tourisme. Je voulais découvrir le monde. Je me suis bien plu dans les ressources humaines dans lesquelles j'ai travaillé après. Et j'ai déjà vu beaucoup de personnes différentes. C'était très riche. C'est en devenant maman, finalement, que cette passion pour le vivant et les êtres humains s'est approfondie pour comprendre ce qui nous forme, les conditions d'une vie heureuse, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend malade. Et c'est à cette occasion que je me suis intéressée à des auteurs comme Jesper Juhl et que je suis tombée sur lui. Pour moi, c'est vraiment un des grands penseurs et des acteurs de l'éducation en Europe. Lui aussi, il a un parcours un peu inhabituel. Il s'intéresse à la santé psychosociale des pays et des familles très tôt. Et il constate un portrait un peu déplorable, beaucoup de souffrance, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Ce que je trouve déjà important à dire parce que on s'intéresse souvent, tout tourne autour des droits et du bien-être des enfants, ce qui est très bien. Et c'était ma motivation première aussi en tant que maman. Je voulais vraiment donner à ces enfants les meilleures conditions pour grandir, devenir des belles personnes. Et on s'oublie aussi très facilement dans dans cette histoire. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il a constaté déjà cette souffrance aussi de côté des parents, avec les styles, entre guillemets, un peu anciens, l'éducation, soit quelque chose de très autoritaire, soit quelque chose de très laissé-faire. Peu importe ce qu'il avait analysé, il voyait toujours que ça ne faisait pas du bien à l'enfant ni à l'adulte, finalement. Et il a cherché cette fameuse troisième voie. C'est peut-être pas le seul, mais c'est quelqu'un qui l'a fait grandir, de vraiment s'intéresser à la relation que l'éducation en soi n'existe pas. Il n'y a que vraiment chaque relation d'un adulte à un enfant, et c'est unique, et c'est propre à ces deux personnes, et ça se construit, et il y a des possibles de rendre cette relation le plus constructive possible, et ça sous-entend donc qu'on se place toujours dans une relation de sujet à sujet. Il est allé là-dedans, et donc tous ces écrits, pour moi, ça m'a touchée, en tout cas, quand je l'ai découvert, parce que c'est pour moi quelque chose d'universel, c'est transversal, c'est profondément humain, humain et humaniste, et donc applicable dans chaque culture. Donc, pour moi, il touche à quelque chose, voilà, un noyau vraiment essentiel de relations humaines. Et donc, pour moi, c'était salut. Enfin, vraiment, j'ai vraiment buvé ces paroles. Et, mais le mettre en application, c'est plus dur quand même.
On va y revenir. Mais vous avez dit que pour lui, les relations parent-enfant se voyaient comme une relation sujet à sujet. Est-ce que ça veut dire que l'on considère que l'enfant et le parent sont sur le même pied d'égalité?
Non, donc on se considère qu'ils sont pas égaux dans certaines points de vue, par exemple de point de vue de l'expérience, de point de vue des droits. Évidemment, un enfant n'a pas les mêmes droits, n'est pas égal à l'adulte, mais ils ont la même dignité. Il a d'ailleurs créé ce fameux mot de Yaspagul qui est « équidignité », qui veut dire que les émotions, les besoins, les idées, la façon de fonctionner de l'autre a la même dignité, le même droit d'exister que le nôtre. Donc c'est à ce titre-là que on se rencontre dans ce champ de équidignité. On ne peut pas être d'accord avec l'autre ou avoir complètement des besoins opposés dans une situation donnée, mais on a le droit de les avoir et l'autre aussi. Et ça, c'est toujours son point de départ. On est un sujet à part entier. Les enfants aussi, dès la naissance, ils ont aussi des compétences ils ont une compétence de communication, justement, et ils ont une capacité d'exprimer leurs besoins, de nous montrer leurs sentiments, leurs émotions, et ils ont le droit de le faire au même titre que nous. Donc c'est ça l'équidignité. Donc évidemment, l'adulte garde longtemps des responsabilités sur l'intégrité physique, la gestion du quotidien, quelques responsabilités bien sûr, mais il n'est pas dans une position de mieux savoir pour quelques besoins existentiels que l'enfant. Et de plaquer sur lui ses propres ressentis, ses propres attentes, voilà. C'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
Oui, très clair. Oui. On se demandait qu'il reste quand même pour certains un auteur assez méconnu, un auteur, un thérapeute, tous les métiers qu'il a occupés. Savez-vous l'expliquer pourquoi ?
Je pense que je trouve que c'est difficile à expliquer, mais ce que j'ai observé, parce qu'en fait on fait aussi des formations en France sur son approche, et j'ai recommandé quand même ses livres aussi beaucoup, on va dire, j'ai observé, c'est soit les personnes adorent, soit ils disent oui, bof, bah, c'est pas trop pour moi. Donc je pense que quelque chose dans ses écrits qui parle aux uns et pas aux autres. Et je pense aussi que malheureusement, une des raisons, c'est que ça ne rentre pas dans notre société et l'organisation, le fonctionnement des familles aujourd'hui. Notamment dans des grandes villes comme Paris où les familles subissent beaucoup de contraintes, ils subissent aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression. Les journées sont courtes entre le boulot, la maison, les engagements à gauche et à droite, il reste pas beaucoup de temps. Et pour son approche, il faut y prêter de l'attention, il faut se prendre du temps, il faut un peu d'introspection, il faut beaucoup revenir sur soi-même. Et je pense que même s'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce type de questions, mais ils sont quand même pas dotés de beaucoup de temps pour le faire.
Bien sûr.
C'est d'ailleurs souvent ce qui, même les écoles, ils disent c'est trop compliqué, ça. Ils vont dire j'y crois pas ou quelque chose, mais au fond, je pense qu'ils vont dire que c'est très compliqué à mettre en place à côté de toutes les autres matières. Et voilà, donc dans le quotidien qui est bien rempli, ça glisse très facilement en dernière priorité parce que ça demande aussi un effort. Vous voyez, en fait, les Espagnols ne donnent donc pas d'outils, des actions à faire, des principes très marqués. Il construit tout son travail autour des valeurs qui visent à vraiment, vraiment préserver, voire nourrir et toujours renforcer l'estime de soi, de l'enfant, mais aussi de l'adulte. Et les valeurs semblent très simples et très claires parce que c'est l'intégrité, la responsabilité personnelle, l'authenticité, par exemple. Mais quand on regarde de plus proche, une valeur comme l'authenticité, de le vivre, c'est très compliqué. Même moi, j'ai grandi avec Espagnol. On s'est dit, oui, je suis quelqu'un d'authentique, de naturel, toujours honnête, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas l'authenticité dont il parle de vraiment savoir ce qu'on veut, de bien connaître ses besoins, de bien savoir qui on est, ce qui nous nourrit, ce qui nous épanouit. Et même si tout le monde va dire, c'est simple, mais au fond, c'est pas si simple que ça. Et ce qui fait aussi que parfois, quand les personnes sont attirées par cette approche, au lieu d'avoir des réussites tout de suite, comme une courbe qui monte tout de suite, même avec les enfants, parfois ça fait même une courbe qui baisse dans un premier temps, parce que tout devient encore un peu plus compliqué, un peu plus complexe, un peu plus nouveau et inhabituel. Donc on sort vraiment de sa zone de confort et donc ça fait peur aux gens. Et ça prend un petit peu de temps avant qu'on voit les améliorations dans la relation, la relation qui change progressivement, qui devient plus constructive. Donc ça prend du temps et on se confronte et on sort dans cette zone de confort et donc ça fait peur aussi.
Oui. Et alors, est-ce que vous pourriez revenir sur les principaux apports au domaine de l'éducation de Jesper Juhl ? Vous en avez donné quelques-uns avec les valeurs, mais qu'est-ce qui justement vient faire sortir de la zone de confort tous les parents qui essayent de le mettre en place au quotidien ?
Les parents, eux-mêmes, ils ont vécu une éducation quand même clairement différente, une éducation qui est quand même reposer sur un système d'obéissance, enfin à l'école certainement, même à la maison, mais ça pouvait être aussi un autre type d'éducation, plutôt cool ou laisser faire, mais ce qui les ont tous pareils, c'est que la compétence est toujours située au niveau des adultes et le pouvoir aussi, et la décision, le pouvoir des décisions aussi. Et il est tout à fait naturel pour un parent de décider, mais même des choses très simples pour des enfants de je sais pas, 3, 4 ans, de décider s'ils ont froid ou s'ils ont chaud, s'ils ont faim ou s'ils n'ont pas faim, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Et toutes ces petites décisions du quotidien qui partent toujours de la meilleure intention possible. Je pense que tous les parents aiment leurs enfants et veulent généralement leur bonheur, mais parfois, voilà, il est difficile à ce moment-là de s'arrêter, de s'interroger qui a quel besoin, de se mettre dans une posture d'observation. En fait, ça, c'est souvent le plus difficile pour les parents, de sortir de cette posture. C'est moi qui dois veiller sur l'enfant, c'est moi qui est responsable et que voilà, il faut que j'impose ceci et cela, et de sortir de cette posture, de passer à un temps d'observation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations où il faut imposer quelque chose. Historiquement, on le faisait systématiquement et trop souvent. En fait, les parents, ils avaient beaucoup d'attentes. On a toujours beaucoup d'attentes vis-à-vis des enfants, notamment des jeunes enfants. Et c'est aussi, évidemment, socialement, culturellement marqué. Même on attend d'un enfant de bien se tenir dans le train, sur le marché, de pas toucher aux légumes. Voilà, il y a beaucoup de situations où on a beaucoup d'attentes pour des jeunes enfants, par exemple, pour lesquels qui n'ont pas forcément la maturité de pouvoir faire ça d'eux-mêmes déjà et de réguler leurs envies et leur curiosité. Et souvent, les parents, ils estiment atteindre donc ces types de buts avec une certaine autorité par la voix, par des interdits, par un discours moralisant aussi, par voilà, tout ça, c'est encore beaucoup présent. Je sais pas ce que vous en pensez, je le vois partout, et il est difficile de passer à cette posture d'observation, à un langage personnel et authentique.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement?
En fait, juste pour peut-être pour que ça soit plus clair, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on impose les limites à des enfants, ce qui est parfois aussi essentiel. Mais en fait, le twist entre guillemets de Yes Bayoul, c'est que au lieu de imposer un interdit généralisé, par exemple, il va explorer ses propres limites par rapport à cette situation et communiquer ses propres limites à l'enfant, et en prenant en compte les besoins de l'enfant aussi, ou au moins en le reconnaissant et en le prenant au sérieux, ce qui dans le résultat peut donner la même chose, mais dans la communication et dans la posture et dans l'intention, c'est pas la même chose.
Vous auriez un exemple à partager
pour chose, que... Par exemple, si vous êtes sur le marché et l'enfant prend les tomates ou je sais pas quoi, Il est différent de dire « ne touche pas » ou « tu n'as pas le droit de toucher » ou avec un discours un peu général. Et donc, du coup, il vaut mieux parler de soi-même, de dire « je ne veux pas que tu touches ça » ou « je souhaite que tu reposes la tomate » ou « je comprends qu'elle est bien belle et que tu as envie de la toucher, peut-être on peut l'acheter » ou je ne sais pas quoi, mais de passer déjà sur quelque chose de plus, de donner un ordre, d'impératif à quelque chose de plus personnel avec le jeu au moins.
Oui.
Okay. Et pas un discours trop poli, parce qu'on le voit beaucoup aussi, ou presque trop empathique avec l'enfant, en disant « oui, je comprends, mais j'aimerais bien que tu le reposes, tu vois, tu vas heurter le monsieur ». Ça aussi, c'est trop confusant souvent pour un enfant, Et nous n'avons pas l'habitude, parce que nous, on a été habitués et éduqués à un discours poli, justement. Mais pour un enfant, un jeune enfant, le plus clair et le plus efficace, c'est souvent de dire « je veux pas » ou « je veux ». Donc, « j'aime pas ». Donc, ça, c'est un langage clair, personnel, direct, et qui va au moins peut-être déjà l'interpeller.
Très clair.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres grands principes à connaître sur ces apports à l'éducation?
Un grand principe comme le titre de son livre, « Les enfants sont compétents », c'est de vraiment pas oublier qu'ils sont progressivement, hein, et même petits, compétents, de ressentir un certain nombre de leurs besoins et de les communiquer. Donc, de se mettre à leur écoute, de bien observer. Donc, ça, c'est certainement un des principes. Et un deuxième principe, et un peu plus complexe, c'est ce que Jesper Juhl appelle la coopération. Mais ce n'est pas la coopération dans le sens classique. Mais ça concerne, en fait, cette capacité de l'enfant de nous lire, de lire les adultes référents, d'être très empathique avec eux, inconsciemment et naturellement avoir la tendance de coopérer avec les besoins et les attentes de cet adulte-là. Donc ça se voit pas toujours, c'est pas toujours une coopération copie conforme. Mais donc ça peut être dans les comportements de l'enfant, ça peut exprimer complètement le contraire, mais ça va dans le même sens, en fait. L'idée, c'est par exemple si un enfant sent que le parent est constamment stressé, débordé, n'a pas le temps, voilà, vous pouvez avoir des enfants qui coopèrent avec ça en étant très adaptés, très sages, en réprimant leurs propres besoins au bénéfice de leurs parents, et de coopérer dans tous les sens du terme. Mais vous pouvez également voir un enfant coopérer en mettant en place soit l'opposé, donc soit étant extrêmement lent, ne répondant pas positif aux demandes des parents, etc., pour signaliser qu'il y a un problème, pas chez moi, mais chez toi, en gros, ou aussi devenir très nerveux, aussi stressé, donc pour montrer, mettre en miroir ce qui se passe pour lui dans la relation avec son parent. Donc ça, c'est un deuxième grand principe de Jesper Juhl, ce qui rend le parent toujours responsable de cette interaction et qui souligne vraiment ce grand principe que j'adore personnellement et que je peux aussi voir à l'œuvre partout, qui est toujours cette co-construction. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi aussi, certaines pédagogies alternatives, ou toutes les pédagogies, toutes les approches où on considère vraiment cette interaction et cette expérience parent-enfant ou adulte-enfant comme quelque chose de vraiment co-construit et co-partagé en termes de responsabilité. Ouais, pour moi, c'est vraiment, vraiment super important. Et peut-être pour expliquer, parce que c'est vraiment compliqué. Moi, je cite toujours un bon exemple qui parle, que j'ai vécu avec mes propres enfants, donc mon plus jeune notamment, qui... voulait pas aller à l'école, hein, donc grand classique à 3 ans. Et donc, évidemment, quand je voulais le poser à l'école maternelle, il pleuvait toujours de toutes ses larmes. Il avait un enseignant qui était, on va dire, peut-être un peu à l'ancienne, et qui lui disait encore « Non, mais un garçon, ça pleure pas » et tout ça. Et moi, je me sentais déjà très progressiste en disant « Non, non, mais t'as le droit de pleurer, etc. Et, » mais ça changeait rien. Et en fait, c'est que à partir du moment où j'ai reconnu ma propre tristesse, parce que j'étais triste au plus profond de laisser mon fils qui visiblement était pas bien. Mais je ne lui montrais pas. Je l'encourageais. Je lui disais, tu as le droit de pleurer. J'ai confiance dans les personnes qui te prennent en charge. Tu peux y aller. Je vais te chercher. Enfin, je le confortais et je lui donnais toute la place pour exprimer ses émotions, pour être. Mais je ne donnais pas cette place à moi. Et c'est que à partir du moment où j'ai reconnu ma propre tristesse, que j'ai pleuré mes propres larmes, que lui, il s'est calmé. Donc ça, c'est aussi cet principe de se mettre en miroir. Tant qu'il n'était pas sûr que moi, j'étais bien, il ne pouvait pas être bien lui non plus. Bon, c'était toujours compliqué avec mon fils à l'école, hein, mais c'était une autre histoire. Mais en fait, la séparation, en tout cas, ça s'est beaucoup mieux passé une fois que tous les deux, on a pu exprimer ce qui nous traverse et qu'on s'est rapprochés pour trouver les meilleures solutions possibles pour nous deux.
Oui, c'est ça. C'est un très beau principe, cette coopération. Moi, j'avais lu aussi quelque chose qui m'avait bien plu, c'était aussi sur l'art de dire non. Il dit notamment, les enfants ne s'intéressent pas au pouvoir, mais qu'il est simplement important qu'il exprime ses désirs. Et j'ai vu aussi qu'il disait, notre cerveau assimile l'amour à un oui. Comment vous interprétez cela ?
En fait, Gaspar Youl disait toujours, c'est la plus grande preuve d'amour, c'est que l'autre peut dire non. Et c'est vrai que nos questions qu'on pose parfois aux enfants, c'est plutôt des questions rhétoriques. Ça n'attend pas forcément un non. Ça veut dire justement rencontrer l'autre en toute intégrité et authenticité et de montrer qui on est et de regarder qui est l'autre. Et ça sous-entend aussi que l'autre puisse se montrer en toute authenticité et à une proposition dire non. Il dit ça a deux bénéfices. Déjà, évidemment, c'est le bénéfice que l'enfant puisse exprimer quand il n'est pas d'accord, ce qui est vraiment très valable, même à l'adolescence, plus tard. En fait, tout ça, ça va se tirer longtemps. Et quand on peut avoir un vrai échange honnête avec ce qui devient plutôt un adulte, enfin un ado, et après un adulte après, ça facilite vraiment l'adolescence beaucoup, beaucoup, parce que l'ado n'a pas besoin de se cacher, on peut se mettre d'accord, même sur les heures de rentrée, sur voilà, tout un tas de choses. Et ça a aussi l'avantage que le jeune, enfin l'enfant, apprend qu'un adulte aussi va dire non quand on est fatigué, quand on ne veut pas, et que vraiment dans cette culture, on apprend qu'il y a diversité, on apprend qu'il y a des besoins différents des uns des autres, et qu'on peut les exprimer et on voit ce qu'on fait après avec. Voilà, c'est pas une culture. Enfin, de toute façon, une bonne culture familiale, c'est pas une culture sans conflit, justement. Et Gaspar Youl, il parle de la chaleur humaine, de la chaleur de l'amour et du lien, mais il parle aussi de la chaleur de friction. Comme quand deux pierres se touchent et se frittent, ça donne des étincelles. Et pour lui, c'est la même chaleur. C'est parce qu'on s'aime et parce qu'on cherche à trouver. Justement à protéger son intégrité, quelque chose qui nous est cher et qui nous constitue de façon saine, et on coopère d'autant plus facilement quand on a le droit de le faire à des moments où c'est vraiment essentiel pour nous. Donc il faut dire non, il faut savoir et pouvoir avoir un espace dans lequel on peut dire non pour pouvoir dire pleinement oui.
Non, c'est super.
Ah oui, c'est quand ça marche.
C'est passionnant. On se demandait comment est-ce qu'on peut se former aujourd'hui au principe de Gaspar Youl. Je sais que vous faites des formations, mais peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus.
Bon, il existe un site, c'est un site bien évidemment, qui est aussi très riche avec plein d'articles, des petites vidéos, qui peut déjà donner des pistes. Il y a les livres, bien évidemment. Il y a plein de... Enfin, plein, pas si beaucoup que ça, mais je pense qu'on est un peu 15, une bonne quinzaine, mais un peu éparpillés dans toute la France. D'animateurs, d'experts formés au Family Lab, donc à l'approche de Gaspar Youl qui pratique, qui accueille. Et il y a des ateliers pour parents, pour professionnels, et puis aussi la formation pour devenir animateur soi-même, ou bien se former, approfondir ses connaissances pour en tant qu'éducateur spé ou prof ou enseignant ou dans une crèche, voilà, en tant que professionnel de l'éducation. Il y a aussi un livre spécifique. Bon, il y a beaucoup de livres qui sont maintenant traduits en français. Il y a un livre spécifique pour l'école, de l'obéissance à la responsabilité. Il s'appelle, je pense qu'il y a encore un long chemin à faire, mais c'est bien. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui sont intéressés. Voilà, donc il y a des belles ressources déjà.
Super. Et alors, vous accompagnez aussi des écoles pour qu'elles mettent en place ces pratiques au quotidien?
J'ai accompagné des écoles. Alors souvent, c'était pas spécifiquement, ça m'est arrivé que j'ai fait spécifiquement une formation aux valeurs, à la mise en place de ce type de posture. Mais généralement, mes formations sont sur une autre thématique, mais très très fortement du coup inspirée par cette posture-là. Donc toutes les écoles, ils le savent, enfin dès que j'interviens, ils le savent que ça repose sur cette approche-là. Mais oui, généralement, c'est sur voilà, sur l'harcèlement ou sur sur le décrochage scolaire, quelque chose comme ça. Mais justement pour raccrocher un lycéen à l'école, c'est d'autant plus important de développer quelque chose sur la durée, quelque chose qui est durable et quelque chose qui lui donne envie de lui-même de raccrocher, de lui imposer et de le punir, de lui imposer des cours ou quelque chose, ça va souvent pas servir à grand chose. Donc oui, ça, de toute façon, ça influence tout mon travail.
Bien sûr. C'est comme un art de vivre, en fait.
Exactement, exactement. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes qui s'intéressent à ces écrits, c'est que vous allez apprendre, vous allez grandir déjà avec, vous allez apprendre pour la relation adulte-enfant, mais vous allez apprendre aussi sur la relation adulte-adulte, même au travail. Donc, ça va vous servir partout. Parce que c'est pour ça que c'est universel et ça touche quelque chose de profondément humain qui nous concerne tous. Et un grand mantra, enfin, ce qui est devenu un de mes mantras, c'est de dire voilà qui je suis, qui es-tu, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment. C'est vraiment qui je suis et comment je le dis et comment je le montre, qui es-tu, qu'est-ce que j'observe. Et c'est aussi une façon très raccourcie de dire des mots sur son approche, plus évidemment tout ce sujet de la résonance. Parce qu'en tant qu'humain, on fonctionne vraiment en résonance constante. Même les neurosciences le prouvent maintenant qu'on se met en vibration mutuelle, on va dire. Donc il y a des éléments qui nous appartiennent, mais qui, dans une interaction, mais qui appartiennent toujours à l'autre, qu'on se miroite, sur lesquels on réagit. Donc, c'est une bonne école pour ça également.
C'était magnifique, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que le principe de résonance est quelque chose qui nous touche aussi énormément. Oui. Merci beaucoup, Catherine, pour cet éclairage très beau sur... Cette nouvelle approche de l'éducation que l'on ignorait, mais qui nous donne très envie de continuer à explorer. Donc merci beaucoup pour ça.
Merci, merci à vous, c'était un grand plaisir.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaibes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.